Vous êtes à l'écoute des balados sur nos ondes CFAQ 88.3 et je suis présentement avec Jean-François Vachon, réalisateur de la série de balado S'accorder, un balado documentaire s'intéressant à l'impact des accorderies. Comment ça va, Jean-François?
Ça va très bien.
Oui, ben, je suis bien content qu'on t'a aujourd'hui. Là, d'ailleurs, ben, je vais commencer avec pas des questions. Là, j'étais bien content d'écouter ton balado parce que, en toute transparence, au niveau de la production, c'est des bons que j'ai entendus. Donc, bravo pour ça. Fait que ça va bien sonner sur nos ondes. Je l'espère. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'ai le goût d'en apprendre un peu plus sur toi. Tu sais, ça vient d'où, tu sais, produire des balados, là, tu sais, c'est un médium qui est relativement récent, tu sais, encore plus au Québec qu'aux États-Unis, par exemple. Et il n'y en a pas tant que ça à Sherbrooke. Là, ça m'a même surpris quand tu m'as contacté pour le projet. Tu m'as dit, hey, je suis producteur et réalisateur de podcast à Sherbrooke. J'ai fait, ah ouais? Ah ouais, fait que ben, c'est ça. Parle-moi un peu de ça.
Ouais, ben ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, je suis un ancien, quand on est à radio étudiante, un ancien étudiant là, de l'Université de Sherbrooke. Je suis historien de formation. Puis j'ai longtemps travaillé en recherche, puis j'ai tout le temps fait des projets artistiques on the side là, dans mes temps libres et tout ça. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai fait le pont de la recherche au documentaire, de documentaire vidéo, et j'ai découvert tranquillement le documentaire audio okay, à travers les balados. Il y a plusieurs sortes de balados, les balados entrevues, les balados documentaires, documentaires audio. Puis j'ai vraiment, ben, un peu comme tout le monde, j'ai découvert ce médium-là ben, avec Radio-Canada, beaucoup. Là,
ouais, ouais.
Les séries, là, je me souviens, un moment donné, j'avais été sur la Côte-Nord faire des entrevues okay. De recherche, puis j'ai écouté un balado sur Robert Charlebois, c'était comme 8 épisodes, puis c'était vraiment bien fait, là, avec des ambiances sonores, de la musique, puis j'ai vraiment, je me disais, mon Dieu, quel beau format, puis tu sais, dans la vidéo, ce qui est, le documentaire vidéo, c'est intéressant, mais des fois, tu sais, pour des questions de coût ou, tu sais, c'est difficile des fois d'avoir la longue durée, tu sais. Moi, j'aime ça, les projets, les documentaires, tu sais, qu'on peut vraiment plonger en détail, tu sais, vraiment creuser des sujets, tout ça. Puis le documentaire audio permet ça. Puis là, tranquillement, j'ai ajouté cette corde-là à mon arc de documentariste. Là, ça fait à peu près 5 ans, là, je fais du documentaire. Et là, j'en fais de plus en plus, puis... j'ai pas encore de nom de compagnie publique, là, mais tu sais, c'est un projet à mener l'autre, okay, un peu ouais. comme consultant, là, comme travailleur, là, dans le fond, les gens, le premier projet amène un autre, puis tout ça, mais c'est ça, j'adore ce médium-là beaucoup. Là.
Ouais, ben effectivement, là, ton point de ça permet d'avoir un rendu de qualité avec moins, là, fait que c'est vraiment, vraiment pratique. Ben on peut aller plus dans le vif du sujet. Peux-tu nous présenter c'est quoi le balado? D'abord, peut-être nous expliquer c'est quoi les accorderies. Je sais que tu vas l'expliquer ouais. Dans l'épisode 1, mais juste qu'on parte sur des bases solides.
Ben oui. Les accorderies, c'est des organismes communautaires, dans le fond, qu'il y en a un peu partout au Québec. Il y en a une dizaine au Québec. La base de ça, c'est que c'est vraiment l'échange de services. Dans le fond, c'est d'inciter les gens à s'échanger toutes sortes de services, que ce soit super basic comme aller tondre la pelouse, comme aider quelqu'un à écrire un plan d'affaires, aider quelqu'un à organiser un événement. Puis la base de ça, c'est qu'il n'y a pas d'échange en argent. C'est vraiment, moi, je donne une heure de mon temps, puis la personne, après ça, après que j'ai donné une heure de mon temps, j'ai une heure en banque que je peux utiliser pour demander le service à une autre personne. C'est pas obligé d'être la même personne, ça peut être une autre personne complètement. Puis c'est même pas obligé d'être la même accorderie, tu sais, comme il y en a par exemple une accorderie à Sherbrooke, il y en a une à Montréal, il y en a plus qu'une à Montréal en fait, il y en a une à Québec. Je peux aller à Québec puis échanger avec quelqu'un. Puis c'est vraiment très varié, puis c'est sûr que c'est un organisme aussi qui a une vocation de lutte à la pauvreté, à l'exclusion sociale, c'est-à-dire que c'est sûr que, tu sais, souvent, mettons, les personnes en situation de pauvreté, ben il y a certaines choses qui peuvent pas se payer, mais avec un système d'échange comme ça, ils peuvent. Puis les accorderies, ils organisent aussi beaucoup d'activités sociales qui permettent de briser l'isolement. Puis comment ce projet-là est arrivé sur la table? C'est ça, je travaille avec le professeur et chercheur Paul Morin, qui est à l'École de travail social ici. Lui, il avait fait une recherche sur l'impact des accorderies sur les personnes aînées. Et moi, ça fait longtemps que je travaille avec Paul. On a fait des projets qu'on appelle de mobilisation de connaissances, c'est-à-dire qu'on utilise divers médiums, pas juste le médium écrit, comme habituellement on fait en recherche, des vidéos, des balados, puis on essaie de le transmettre, vulgariser les savoirs comme ça. Puis ça a été tout bêtement comme ça. Je disais, ah, c'est intéressant, ce recherche-là. Moi, je connais les accorderies. Ben, je l'explique un peu dans le balado.
Oui, c'est ça. Mais faut pas trop.
Pas trop. Mais c'est pour finir rapidement. Puis j'ai fait le projet en collaboration avec lui. Là, puis ça, c'est une belle opportunité. Là,
Comme tu as dit, là, ce qui m'a vraiment touché dans le balado, c'était. Au début, on dirait qu'on l'approche très mathématiquement, là, ce projet-là d'accorderie de une heure vaut une heure de tel service. Puis bien, évidemment, après 4 minutes, on se rend compte que c'est beaucoup plus humain et social qu'on le pense.
Ouais.
Sinon, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du type de balado, de la forme, de moi, qu'est-ce que tu... Ben, ouais, c'est ça, parce que il existe tellement de sortes de balados. Là. Tu sais, toi, tu as une approche peut-être plus contemplative et qui t'aime ça nous mettre dans... c'est ça, je voulais en parler pour l'épisode 2, là, mais je pense que je vais en parler tout de suite. Allons-y,
suivons le courant.
J'avais écouté un moment donné, je suis pas un grand fervent, mais ça n'est juste pas tant venu dans ma vie pour l'instant, là, les livres audio. Mais j'en ai écouté quelques-uns, là, dont un que Biz là, avait fait. Puis j'avais l'impression par moment de retrouver des éléments de livres audio. Tu parles d'aller dans le métro, à un moment donné, tu prends le métro à Montréal, tu parles du son du métro, ça n'a pas changé, puis... Je me sentais vraiment comme dans un livre audio, tu sais, ça ne s'apparentait pas nécessairement à tous les autres podcasts, documentaires que j'ai vus, que j'ai entendus. Donc, ça vient d'où, ce style-là? Puis, est-ce que c'est conscient ou c'est toi?
Ouais. C'est un peu, c'est sûr qu'il y a tout le temps, tu sais, chaque producteur, chaque réalisateur a un peu son style, tu sais, j'ai mon style à moi. J'ai fait du slam de poésie pendant un moment. J'ai même fait du monologue humoristique. C'est drôle de se parler de ça tantôt. Mais le monologue humoristique, plus proche du théâtre, en fait. Je suis très à l'aise avec l'aspect vocal. Fait que, tu sais, je mets beaucoup de temps pour écrire mes narrations, jouer avec le ton de voix, pour que ce soit juste une narration plate, là, que, tu sais, qu'il y ait un peu d'émotion dedans, mais que ça soit quand même constant. Il y a ça, mais... Il y a plusieurs types de balado. Tu sais, c'est un peu un terme fourre-tout balado. Tu sais, c'est quoi exactement? Tu sais, un balado comme le balado, ce balado-ci, c'est très différent d'un balado que c'est juste trois personnes qui jasent ensemble puis tu sais, qui sont filmées même des fois. C'est ça, vraiment, mon intention au niveau de la forme, c'était vraiment que ça soit immersif. Tu sais, c'est-à-dire que quand je vais à un endroit, qu'on entende le son d'ambiance du café ou le métro, qu'on sente vraiment que les gens sont avec moi là, dans cette enquête-là. J'ai eu ça, il y en a d'autres comme ça, c'est sûr, ils ne sont pas exactement pareils. Mais oui, je me suis inspiré de beaucoup de documentaires audio, des fois québécoises, des fois aussi américaines. Il y a une série que j'aime bien qui s'appelle This American Life qui joue. C'est une émission qui existe là, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Puis c'est vraiment des gens qui vont dans des milieux explorer un sujet. Puis tu as souvent cet aspect-là, ambiance sonore. Puis je trouve ça intéressant, le balado. Je trouve que c'est comme un. C'est drôle, tu parles de livre audio. C'est comme un médium entre. C'est la vidéo que tu vois un peu tout est révélé. Puis tu sais, le balado, c'est pas comme un livre, tu sais, t'entends la voix, t'entends des choses, c'est pas juste tout dans ton imaginaire, mais c'est comme un bel entre-deux, puis tu sais, ça, je trouve ça vraiment bien, là. J'aime ça.
Tu exploites au maximum ce médium-là pour créer, de créer de l'ambiance, là. Ça vraiment, au début, on est transparent. Là. Début, je n'étais pas sûr parce que je trouvais que le ton était lent, mais on dirait après comme 10 minutes que j'ai fait « Ah, c'est vraiment... » Je suis comme vraiment plus... Je vais utiliser un anglicisme, le hook dans l'histoire. Là, on dirait que ça... C'est ça, une fois qu'on l'accepte que c'est un peu plus lent, mais on embarque comme un genre de film. Là, fait que, mais je suis pas patient. Là, fait que...
Tu comprends?
Mais... celui qui est... je sais pas comment le dire. Là,
mais je comprends. Mais tu sais, c'est ça beaucoup. Moi, j'en ai écouté justement des balados comme ça. Puis tu sais, des fois, c'est... c'est un peu ça le risque, parce que tu peux tout le temps être punché, puis là, t'embarques. Mais il y a des balados, des fois, d'ambiance, comme moi aussi, je décroche, mais c'est ça, c'est tout le travail d'essayer d'avoir une histoire, puis d'avoir des petites péripéties dans ton histoire, comme quand t'écris un livre. S'il n'y a pas de péripéties dans le film, il ne se passe rien. T'embarques pas. Fait que c'est ça, il y a tout un travail. Justement, je me dis, ah, okay, là, c'est-tu trop long? entrevue, il faut que je mette de quoi qui se passe, faut que je mette un bruit d'auto, faut que je mette quelque chose pour garder l'attention, dynamiser. Là, puis c'est parce que c'est vrai, ça c'est vraiment important. Là.
Ah, ben tant mieux, parce que ça ressort, puis c'est un point super fort de la série. Qui différencie à le travail, on dirait, ben, journalistique plus rushé, là, si on veut, de l'actualité, là, si on veut, qu'on peut retrouver dans les médias traditionnels, là, si on veut. Là. Il y a plus... Vraiment, on prend le temps de créer une histoire, même si c'est de quoi de réel. Fait que, sur ce, veux-tu nous présenter brièvement l'épisode 1, là?
Ouais, ben, l'épisode 1, c'est un peu l'épisode introductif là, de la série. Là, on a déjà dévoilé quelques punchs, mais il reste des choses.
Ouais, il y a d'autres choses que le métro, là.
C'est ça, il y a d'autres éléments. C'est quand même 40 quelques minutes, là. Ben, c'est ça, c'est vraiment un épisode là, où est-ce que, tu sais, ben, c'est ça, c'est l'histoire qui commence. Parce que, tu sais, c'est très important d'écouter les épisodes en ordre. Et ça explique un peu c'est quoi, parce que ça s'appelle S'accorder une enquête sur les accorderies. Ben, on explique un peu c'est quoi cette enquête-là, le pourquoi. C'est moi un peu qui lead l'enquête dans le balado, qui je suis un petit peu. Je dis des nouvelles choses aussi là, qu'on n'a pas entendues. puis c'est ça, puis c'est vraiment le début de l'enquête, les bases. Puis tu sais, on explore un peu plus c'est quoi les accorderies en profondeur avant d'aller dans des sujets plus pointus là, dans les autres épisodes. Là. Fait que ça, je pourrais... J'en dirais pas plus ouais, que ça. On commence.
Ben parfait. Ben merci Jean-François. Puis ben on va se reparler comme ça à la semaine prochaine, même heure, même poste, pour présenter le deuxième épisode de la série. Ben, merci beaucoup.
Parfait, merci.
L'histoire que je vais vous raconter pour commencer est pas directement en lien avec l'accorderie. Mais c'est l'histoire qui m'a conduit à elle.
Ça fait longtemps que je suis pas venu ici.
Ouais, moi aussi, ça doit faire près de 20 ans.
Aïe, c'est fou, ça passe vite. Hein?
Ouais.
C'était en 2000, je pense. J'étudiais au cégep et je m'étais découvert une passion pour l'écriture et j'avais envie de la partager. Ça faisait drôle de revenir sur le campus. Les souvenirs remontaient.
Fait que tu vois, je pense que... C'est ça, j'avais imprimé une affiche.
C'était plus une feuille, en fait, que j'avais épinglée sur les gros babillards près du café étudiant. Le message était simple. J'invitais les gens qui écrivaient à venir partager leur création avec moi. Puis, à un moment donné, on a commencé à faire des rencontres.
C'était le A203, je pense. Je suis pas sûr. Je vais voir si ma mémoire est bonne. Parce que je l'ai tellement écrit sur l'affiche, le rendez-vous.
En haut? Ah, OK, ouais. Fait qu'il faut monter, ouais.
Ouais, juste en haut. Ça a pas trop changé.
On était juste quatre au début. Quatre personnes réunies autour d'une table.
Fait que c'était là. Fait que c'est ici, quelque part ici, que ça a commencé. Puis ça a été quand même amené des gros changements dans ma vie. Hein.
On lisait nos textes, on s'encourageait, puis on se donnait des trucs. Mais ce qu'on aimait le plus, c'était de discuter de ce qu'on écrivait. On était vraiment une belle gang.
Ça m'a fait connaître du monde là, de toutes sortes d'âges, des gens qui écrivent toutes sortes de textes là, philosophiques, poétiques, etc. Puis... Ah non, ça a été vraiment...
Ça t'a sorti de ta coquille, veux pas, en même temps?
Ouais.
On a rapidement tissé des liens, au point qu'après un an, on s'est donné un projet, publier un recueil avec nos textes. Tout le monde est impliqué à sa façon.
C'était le fun parce que chacun un peu avait des talents différents. Mettons, on faisait le recueil, il y en avait qui étaient bons pour coqueger. Là, on donnait ce job-là à quelqu'un qui était bon pour faire le graphisme, on donnait ce job-là. Fait que ça, c'est vraiment avec ça que j'ai appris à faire des projets. Puis c'est comme, ça comme, en fait, on entrait dans un autre univers complètement. Là. C'est vraiment.
Je me souviens du bien que ça me faisait, de rencontrer du nouveau monde, de partager ma passion et d'avancer vers un but commun. Pour de vrai, je pense qu'il y a plus de gens qu'on croit qui n'ont pas goûté à ça. À ce plaisir-là de construire quelque chose avec du monde, de s'entraider, Moi, en tout cas, en 20 ans de vie, j'avais jamais connu ça. Et ça a complètement bouleversé ma façon de voir le monde.
Des fois, je pense qu'on sous-estime à quel point que juste une petite affaire que tu changes dans ta vie ou un projet que tu fais, comment ça peut faire boule de neige.
Ouais.
Si je vous raconte mon histoire, l'histoire de comment mes implications ont transformé ma vie, c'est pas pour vous faire ma biographie. C'est simplement parce que c'est la meilleure analogie que j'ai trouvée pour vous transmettre l'effet que l'accorderie a sur les gens. L'art et l'écriture, ça a été mon catalyseur vers un monde stimulant d'entraide, d'ouverture puis de projet. Mais pour beaucoup d'autres, les accorderies ont joué ce rôle-là. Ça leur a donné accès à quelque chose de nouveau ou à quelque chose de précieux qu'ils avaient perdu. Dans les 5 prochains épisodes, c'est de ça qu'on va parler.
Quand j'ai vu l'explication de l'accorderie, pour moi, c'était vraiment un coup de foudre. Wow, quelle belle idée!
Je pense qu'il y a une soif. Il y a une soif pour les gens d'avoir plus de communautaire dans leur vie, plus de solidarité.
Ça permet à ces gens-là de sortir de leur isolement. C'est des personnes qu'on réveille, qu'on réanime.
La première réflexe que j'ai eu dans ma tête, c'est enfin, il y a quelqu'un qui pense comme moi. Parce que moi, je donne, je veux dire, je donne parce que ça me fait plaisir de donner, puis ça me donne de donner.
La vibe, c'était tellement, je me disais, mais je te dis, je me suis mis à pleurer comme un petit bébé, puis je me dis, mais c'est dans ce monde-là que j'ai envie de vivre.
Ça me rapporte, c'est hallucinant, là, tu sais.
J'ai retrouvé confiance en une partie de l'humanité.
Ça nous permet de rencontrer beaucoup de belles personnes, puis on devient une grande famille, finalement.
Moi, j'ai un accordeur, quand on l'avait inscrit, je me rappellerai toujours, il était dans mon bureau, puis il me fait « Ah, mais, c'est un nouveau monde! » Il était tellement ébahi par tout ce qu'on peut faire là, à travers une accorderie. Mais en fait, c'est pas un nouveau monde, c'est le retour du monde.
Vous écoutez « S'accorder ». Un balado documentaire où je vais sur le terrain pour découvrir l'impact des accorderies par la voix de ceux qui en font partie. OK. À la base, l'accorderie, c'est assez simple. C'est un système d'échange dans lequel tu donnes une heure d'un service pour recevoir une heure d'un autre service. Tu donnes une heure, tu gagnes une heure. Tu bénéficies d'une heure et ton compte baisse d'une heure. Puis tu peux échanger avec n'importe quel membre. Et pour débuter, c'est pas compliqué. Tu deviens membre, tu t'inscris en ligne, tu dis ce que tu veux offrir et tu regardes ce que tu as besoin. Bref, techniquement, l'accorderie, c'est assez simple. Mais c'est beaucoup plus qu'un système.
Quand je me suis jointe au groupe qui ont créé l'accorderie, je me disais, ah, je peux donner un petit peu de temps, là, puis faire ça un peu dans mes loisirs. Finalement,
Je vous présente Catherine Larouche, la directrice de l'accorderie de Sherbrooke, qui, finalement, donne pas mal plus qu'un petit peu de temps. Je la connais depuis plusieurs années.
Jean-François a été le premier vice-président de l'accorderie de Sherbrooke.
Ouais, pas longtemps.
Il y a de cela une dizaine d'années. Ouais. Moi, j'étais présidente à l'époque.
Ouais, c'est vrai, je vous l'ai pas dit. Mais j'ai été impliqué à l'accorderie de Sherbrooke au tout début. Ou presque. En fait, c'est grâce à Catherine que j'ai connu l'organisme. C'était une amie proche, puis à l'époque, elle me parlait qu'elle organisait des rencontres pour trouver du financement pour le projet.
On se promenait là, chez chacun des membres du comité promoteur, qui était responsable de faire la tisane puis les biscuits, là.
C'était des réunions de cuisine comme qu'on aime les idéaliser dans le communautaire. Peut-être que certains venaient juste pour les biscuits, mais ce qui motivait le groupe, je pense, c'était plus une volonté de dynamiser un quartier.
On était une gang, là, à peu près 7-8, là, qui étaient surtout des gens, en fait, des citoyens impliqués dans le quartier, des étudiants, du monde qui venait de finir leurs études.
En passant, le quartier dont Catherine parle, c'est le secteur Ascot. Un des coins les plus pauvres de Sherbrooke. Et cette gang-là, pour reprendre les mots de Catherine, était à la recherche d'un moyen pour lui redonner vie.
On a assisté à la présentation de ce qu'est une accorderie, puis on trouvait que le concept de monnaie sociale, c'était vraiment intéressant comme outil d'intervention pour pouvoir permettre la création de liens dans le quartier, puis c'est justement la mise en commun des forces.
Les membres du comité croyaient fermement au projet. Après quelques mois, un CA, dont je faisais partie, a été formé, et encore plus rapidement, l'accorderie de Sherbrooke est née.
Le démarrage s'est fait de manière assez fulgurante.
L'accorderie de Sherbrooke, ouais. Donc c'est maintenant officiellement que ça commence!
Depuis son invention à Québec en 2002, le concept de l'accorderie a fait des petits un peu partout dans la province et en Europe. La coopérative d'échange de services s'implante maintenant ici, à Sherbrooke, dans le quartier d'Ascot.
Le lancement en 2013 a vraiment été un succès. Presque tous les médias étaient là. Il y avait les gens impliqués dans le quartier Ascot, des citoyens, le milieu communautaire. Bref, la salle était pleine de personnes sensibilisées à la cause.
Aujourd'hui, on est habitué de donner de l'argent. Moi, quand je donne quelque chose, je donne de l'argent. Je donne de l'argent à tout vent. Et là, la corderie, ce qu'elle dit, c'est non, 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 on veut pas de l'argent. On veut des talents. On veut du temps.
On était entouré de bons communicateurs. Et Catherine était déjà aussi une excellente porte-parole.
Moi, je vais rendre un service à quelqu'un. Par exemple, je vais l'aider à peinturer son appartement. Mais en échange, je vais pouvoir avoir des cours de danse, des cours de peinture ou que quelqu'un pourrait coudre mes barres de pantalon.
Catherine parle d'échange de services. Mais comme je disais, l'accorderie, c'est pas juste ça. Et le directeur du réseau de l'accorderie de l'époque, l'organisme qui chapeaute toutes les accorderies du Québec, s'est exprimé très clairement là-dessus.
L'accorderie, en fait, c'est juste un catalyseur. C'est simplement une étincelle ou un levier pour permettre à plein de gens de prendre conscience de leur propre talent.
J'aurais pas pu dire mieux. À Sherbrooke, mais aussi ailleurs, l'accorderie a été un catalyseur.
On a fait la preuve que, en fait, le système de l'accorderie est extrêmement efficace pour mobiliser des citoyens qui ont envie de partager leurs passions et leurs intérêts. Puis que, en fait, tout le monde y trouve son compte, puis tout le monde trouve ça le fun, cette manière de fonctionner-là.
Disons que les gens en avaient besoin.
La demande était très forte quand même dans le milieu pour un réseau d'entraide.
On était très ambitieux. Et nos objectifs ont rapidement été dépassés.
On est passé de 10-12 membres à 200 membres en dedans d'un an.
Et ça a continué à monter. Aujourd'hui, on est 600. Sans compter les citoyens et les partenaires.
C'est devenu grand, l'accorderie de Sherbrooke. Je pense que c'est devenu un espace d'ouverture, d'inclusion et de participation citoyenne qui fait rêver. C'est sûr qu'on a fait du chemin depuis la cabane du quartier Ascot.
C'est vrai, la cabane. Je l'avais oubliée, celle-là. Quand j'étais vice-président, je m'occupais des communications puis je voulais trouver une image forte qui symbolisait l'esprit de l'accorderie.
C'est un peu une idée de fou que j'avais eue, de dire un peu, dans le fond, l'accorderie, c'est construire quelque chose ensemble, donc on va construire une cabane. Je m'étais inspiré justement de mon quartier quand j'étais jeune. C'était toutes des maisons de famille récentes. Puis là, tous les enfants se côtoyaient. Puis c'est là qu'on avait fait un projet de cabane. Fait qu'il y avait à peu près 4-5 enfants qui travaillaient sur cette cabane-là. Puis t'sais, des fois, aujourd'hui, c'est peut-être ça aussi le défi hein, dans la société. T'sais, tout va vite. Peut-être quand même difficile, hein, des fois, de trouver ce lien-là. En tout cas, puis l'accorderie, c'est peut-être une solution à ça, comme tu dis.
J'étais habité par la mission de l'accorderie et je le suis toujours. Mais après 2 ans d'engagement, la vie m'a porté ailleurs. L'évolution dont Catherine parle, je l'ai donc seulement vue, de loin. Et je suis touché de voir ce que c'est devenu. Bien honnêtement, je pensais pas m'impliquer encore dans l'organisme. Jusqu'à ce qu'un chercheur de l'Université de Sherbrooke que je connais bien, Paul Morin, ramène l'accorderie dans ma vie.
On va s'intéresser à un projet, ma foi, qui propose là, peut-être une belle clé pour la suite. Le maintien à domicile devrait-il reposer entre les mains de la communauté? En tout cas, c'est le défi que s'est lancé un réseau d'entraide.
C'est ça, on veut trouver une alternative en quelque sorte au CLSC, au CIS, même au RPA pour venir en aide aux aînés. Autrement dit, pas compter uniquement sur le réseau de la santé. Et ceux qui pourraient le faire, Annie, ce sont les accordeurs. Accordeurs comme accorderie, peut-être que certains vont reconnaître le nom de ces organismes. Ils sont présents dans plusieurs quartiers du Québec. Et aux yeux du chercheur Paul Morin, ces initiatives, ben, c'est peut-être l'avenir de la santé publique.
Juste pour vous situer, Paul est un professeur à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke avec qui je travaille depuis 10 ans, plus particulièrement sur la question des habitations à loyer modique.
Test micro 1, test micro 1.
Avec lui, j'ai créé des articles, des rapports de recherche et encore plus récemment, des documentaires et des balados.
Juste attention au fil, là, pas trop le bouger, pas trop l'accrocher.
C'est
bon.
C'est un chercheur et un sociologue aussi, faut le dire, qui souhaite vraiment que les études académiques soient pas tablettées et qu'on révèle leurs résultats au grand jour, par toutes sortes de moyens. Et c'est dans ce contexte-là qu'il m'a parlé de sa recherche sur les aînés et l'accorderie. En fait, avec les accorderies.
Les trois accorderies, Shawinigan, Longueuil et Sherbrooke, ont présenté un projet qui a été accepté par le RUIS, donc il y a eu un financement.
Le RUIS, pour faire court, c'est le Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux. En fait, tout le projet de recherche est un partenariat entre le système public et les trois accorderies que Paul vient de nommer. L'initiative avait été financée pour explorer une question assez simple.
Le partenariat était centré sur l'hypothèse que les accorderies contribuaient au maintien à domicile des personnes aînées.
Paul m'a expliqué un peu la mécanique du projet qui avait démarré il y a à peu près 2 ans déjà.
L'idée, c'était que les établissements allaient faire des références pour que les personnes suivies par le réseau deviennent accordeurs et que là, il y ait effectivement des échanges de services. Ce qu'on avait conceptualisé dans le projet de recherche comme étant un écosystème là, de solidarité, de proximité.
Cette vision-là, que les accorderies peuvent collaborer avec d'autres acteurs reliés aux aînés et être une solution supplémentaire à leurs problèmes, venait pas de nulle part. L'accorderie de Sherbrooke, par exemple, avait prouvé qu'elle était capable de faire exactement ça.
L'accorderie, pendant les premiers mois de la COVID, a été extrêmement proactive pour offrir des services à la population, justement comme des services de transport, d'aide aux courses, des services d'appel, de soutien.
La recherche de Paul est intéressante parce que je dois avouer que je n'avais pas imaginé que les accorderies pouvaient rendre service à la communauté avec ses membres. Ça révélait une autre de leurs forces et j'avais envie d'en savoir plus. Paul m'a donc invité au dévoilement d'une partie de ses résultats. À ce moment-là, je n'avais pas encore décidé de faire un balado, mais je sentais un bon filon. Par réflexe, j'ai donc utilisé mon cellulaire pour enregistrer la rencontre.
Au niveau de la première vague d'entrevue, qui encore une fois a rejoint une vingtaine de personnes là, des trois accordés.
Rapidement, en écoutant la conférence, je voyais déjà que les résultats étaient assez concluants.
Ce qu'on a extrait des entrevues et ce qu'on a analysé, ce qu'on pouvait dire, c'est qu'effectivement, les accorderies ont des services qui améliorent la qualité de vie des aînés, notamment en termes d'accompagnement au niveau du transport, en termes d'apprentissage tutorat, de loisirs, de réparation de biens, de soutien administratif.
Paul était assez convaincant. Mais ce qui était encore plus frappant, c'était d'entendre les mots des accordeurs qui avaient invité pour témoigner des résultats. Il y avait du monde de Shawinigan.
On a un accordeur qui est avec la sclérose en plaques. Elle lui a carrément dit « l'accorderie m'a sauvé la vie ».
Des habitants de Longueuil.
Moi, je fais la chambre de liaison et je rencontre des gens très âgés qui disent oh, « moi, je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas offrir rien ». Eh bien, ça leur permet, là, ça les valorise, puis ils ont le goût justement de devenir accordeurs.
Au total, la rencontre durait à peu près 3 heures. Il y avait des témoignages de gens en personne, mais la majorité des résultats étaient dévoilés par Jasmine, l'assistante de Paul, qui lisait des extraits d'entrevues.
Je suis une personne qui ne demande pas facilement de l'aide, donc à l'accorderie, je me sens très à l'aise parce que c'est le but de l'accorderie. Ça me rassure, ça me sécurise énormément. Ce n'est pas tout le monde qui a les revenus pour payer des aides avec des sous. Tout le monde, mes amis et ma famille sont loin, mais j'ai plein de connaissances. Si j'avais besoin d'un service, bien, je pourrais l'appeler à l'accorderie parce que j'ai quand même des heures en banque et tout ça.
C'était éclairant. Sauf qu'en écoutant ça, je constatais que lire des citations, c'est pas aussi frappant que d'entendre directement les gens. Je me suis donc dit, pourquoi pas faire exactement ça? C'est là que l'idée de faire un balado documentaire, ce balado, a émergé. J'étais convaincu que ça serait un bon moyen de diffuser les résultats de recherche de Paul et, en même temps, de faire connaître les accorderies à un plus large public. Mais avant de me lancer et de m'intéresser aux retombées des accorderies sur les aînés, fallait que je me remette à date. Je connaissais les accorderies. J'étais au courant que c'était plus qu'un réseau d'échange, mais ça faisait quand même 10 ans que je n'étais plus vice-président et j'étais loin d'être convaincu que j'en savais assez. J'ai donc consacré un peu de temps à faire des recherches. J'ai lu plusieurs documents et, évidemment, j'ai écouté quelques vidéos.
L'accorderie, c'est un réseau d'échange de services ouvert à toutes les personnes qui ont le goût de s'entraider et de se faire des amis. Être accordeur, c'est une autre façon d'améliorer son quotidien en échangeant son temps et ses talents. Et ça, on en a tous.
Ça résumait bien l'esprit de l'organisme. Je suis également tombé sur des vidéos plus descriptives que j'avais co-réalisées dans le temps.
Les services que j'offre principalement, c'est surtout la réparation de vélos.
Jusqu'à maintenant, j'ai offert plusieurs services. J'ai offert entre autres des activités de groupe qui ont été surtout au niveau de la peinture. On a fait de la peinture sur verre.
J'offre d'accompagner des personnes qui veulent passer leur permis de conduire. J'offre de faire des confitures maison et je montre comment les mettre en pot pour la conservation.
C'est bon!
Bon, j'avoue que ça date un peu, mais ça m'a remis dans le bain. Et en continuant mes recherches, je suis retourné sur l'espace membre, le site web où il faut aller pour trouver des personnes qui offrent des services et l'endroit aussi où est-ce qu'on peut afficher ce qu'on veut donner. Disons que le choix manquait pas.
Conseil de jeux de société pour adultes, musique, guitare électrique, covoiturage, initiation zéro déchet, organisation de la cuisine, accompagnement raquettes, accompagnement recherche de logement, accompagnement fabrication de vitraux, l'animation de fêtes et d'événements.
Faut dire par contre que le site est un peu vieux.
Quand on voit la date en bas du site, c'est 2007. Pas 2017, 2007.
Il paraît qu'ils travaillent à le mettre à jour. Mais ça ne m'a pas empêché de me rendre où est-ce que je voulais. L'endroit où est-ce qu'on peut chercher des offres de services spécifiques. Pour me replonger dans l'univers des accorderies, fallait que j'expérimente plus directement c'était quoi demander et recevoir un service. Et là-dessus, ça tombait bien. Parce que ma sécheuse venait de me lâcher.
Je vais écrire réparation. Ah, réparation électroménager. Donc, il y a une personne qui le fait. Il répare de tout du gris peint à la soucoupe volante. Bon, écoute, j'ai pas de soucoupe volante pour l'instant, mais j'ai une sécheuse qui sonne peut-être comme une soucoupe volante en ce moment. Donc, je vais le contacter. Oui, allô?
Allô, c'est moi.
Salut, parfait. Ben, c'est ça. Ouais, tu peux monter, pas de trouble.
Voici donc Guillaume, mon collègue accordeur réparateur de sécheuse qui, je le savais au début, mais était un gars que je connaissais de loin. Et pas mal sympathique à part de ça.
Salut, ça va?
Ben oui, toi?
Yes. Bienvenue dans notre humble appartement.
Ouais, merci.
Fait que c'est là, c'est...
Bon, il est là le malade.
Ouais, là, c'est ça. Il crie pas trop, là, il se plaint pas trop.
Il se plaint pas, il saigne pas.
Non, non, il fait juste plus chauffer.
Les autres, des fois, ils saignent pas celui-là.
Non, ça va. Ben... Ça sonne comme une sécheuse qui se fait réparer.
Ouais, ça peut être bon.
Je connais rien aux électroménagers, ni rien à propos de leur réparation. Mais Guillaume prenait tout de même le temps de m'expliquer ce qu'il faisait. Sans farce. C'était presque un cours de sécheuse 101.
Fait que là, j'ai 3 éléments qui peuvent faire que ça ne fonctionne pas. Le timer, la switch dans le timer, la fusible thermique, puis les deux thermostats.
C'est-tu un cas compliqué?
Non, non. C'est très simple, les sécheuses, en fait.
Parce que toi, tu répares plusieurs choses, en fond.
Oui, moi, je répare à peu près n'importe quoi qui existe.
Là. OK. On passe le mot, ceux qui entendent.
Je pensais pas avoir autant de fun avec un gars qui répare des sécheuses. Prenez donc ça comme un exemple positif d'échange entre accordeurs.
Tu as assez de lumière?
Oui. Je regarde si le courant passe dedans. Lui, il passe, fait qu'il est fonctionnel.
OK.
Il y en a un autre ici.
C'était vraiment pas ennuyant. Après plusieurs blagues et théories d'électroménager, il a commencé à me parler de la corderie.
Au début, j'avais rien mis comme sur le site. Okay. J'avais rien proposé, fait que j'avais pas de demande. Puis là, j'étais là, bon, je vais-tu me décider à proposer ou pas? Puis j'étais comme un peu dans la réticence. Je le fais-tu, je le fais pas? Qu'est-ce que je propose? Je me dis, si le monde, ils savent qu'est-ce que je peux faire, je vais être dans marge.
Ouais, tout le monde a besoin d'être ça, là. Ouais.
Puis là, après ça, je sais, j'ai de la misère à dire non aussi. Fait que ça, c'est un autre apprentissage aussi, respecter ses limites.
Ouais.
Je me dis, OK, bon, je me lance. Parce que
Guillaume voyait vraiment la corderie avec philosophie. Pour lui, c'était une façon de se dépasser.
Ça me permet de développer le fait d'apprendre à demander de l'aide, parce que j'ai tendance à vouloir tout le temps me débrouiller par moi-même tout seul. Puis là, je me dis, ben là, peut-être que je peux apprendre aussi à demander des fois, recevoir.
Pendant qu'il m'expliquait ça, j'ai aussi découvert son petit côté poète.
La vie, c'est comme une respiration. Hein, quand t'es...
Si tu fais juste expirer,
ça ne marche pas. Tu finis par crever. Non? Ça aussi, ça fonctionne. OK.
Tout en philosophant, il a fait quelques tests pour finalement constater que ma sécheuse allait mieux qu'on pensait.
T'as une des lignes qui n'arrive pas à la sécheuse. Okay. La sécheuse est en pleine santé.
OK, c'est pas la sécheuse, c'est le réseau électrique.
Ouais, il va falloir aller voir la boîte de distribution.
La boîte est là.
C'était un problème de fusible, finalement. Rien de grave.
Fait que la sécheuse est comme neuve, j'ai rien réparé.
OK, ben en tout cas, de trouver le problème, ça peut valoir de l'or, parce qu'on peut penser, tu sais, quand tu connais pas ça, tu dis, bah, ben fini, écoute.
C'est ça. Ça va me prendre une autre sécheuse.
Sécheuse, puis là, il y a plein de gaspillage qui se fait de même.
Oui.
Guillaume a donc remis ma sécheuse à sa place. Et tranquillement, on a recommencé à parler de la corderie et surtout comment ça pouvait être un bon complément au système économique.
L'argent a fait le travail, c'est juste qu'il y a toute la notion de profit. Ben c'est quand on met les notions d'intérêt puis d'emprunt, puis là que les banques embarquent là-dedans, parce que c'est quand t'en as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais?
ouais, c'est ça.
Là, faut t'emprunter, puis là, que tu t'empruntes, ben ils veulent de l'intérêt, puis là, s'il y a de l'intérêt, ben là, ton argent, elle vaut plus le même prix, parce qu'il faut que tu travailles plus pour le même résultat, fait que, dans le fond, plus t'es pauvre, plus t'es pauvre.
Je me suis laissé aller dans la discussion un peu, presque au point de sortir de mes souliers de chercheur. Les mots de Guillaume me faisaient aussi prendre conscience que de nombreux membres de la corderie, dont moi, étaient des personnes qui rêvaient d'une meilleure façon de fonctionner.
Depuis que je suis tout petit, je me dis, si tout le monde prenait soin des autres, on n'aurait besoin de rien. Ça serait facile. Tout irait bien partout dans le monde. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait rien.
Il y aurait moins de... C'est égal dans le sens que peu importe ce que tu fais, que tu fasses du jardinage ou que tu répares une sécheuse, c'est le même temps, la même valeur. Ça ne vaut pas 2 heures parce que c'était l'arrêté de service.
Si on doit identifier une des valeurs que partagent les accordeurs, c'est justement ce souci d'égalité-là.
Je vais me replacer comme il faut. Ben oui,
C'était très constructif comme discussion. Pour de vrai, je pense qu'on a parlé une demi-heure de système économique, de politique, de société. C'était bien agréable. J'avais passé un beau moment, puis ma sécheuse était réparée. Après le départ de Guillaume, j'ai tout de suite été sur l'ordinateur pour déclarer les 2 heures que ça lui avait pris pour me rendre le service. J'étais après de noter tout ça, et une question qui m'a posée avant de partir m'est revenue à l'esprit.
J'imagine que tu rencontres du monde du système jeu aussi, peut-être? Ou...
Rencontrer des gens du jeu et des autres systèmes. Je dois avouer que c'était pas dans mes objectifs. Mais quand Guillaume m'a posé la question, j'ai comme pris conscience que je connaissais pas assez ni comment ces systèmes-là étaient différents ou pas de la corderie. Je me suis donc informé sur le sujet, je me suis promené sur le web et je me suis rendu compte que les systèmes d'échange, c'était assez à la mode. Il y avait le jeu, comme Guillaume m'avait parlé.
Le jardin d'échange universel est un espace pour se rencontrer, échanger, grâce à une monnaie de souveraineté autogérée.
Il y avait aussi le sel, qui voulait dire...
Système d'échange local, c'est des personnes qui se regroupent pour faire des échanges et pour partager ensemble.
Et dans le monde anglophone, il y avait aussi le LETS, L-E-T-S. Encore une fois, c'était un acronyme. Je ne savais pas, mais ce système-là était né en 1983, ici, au Canada.
A small town in British Columbia, with more than its fair share of unemployment, has found an enterprising way of buying and selling goods and services without exchanging money.
There's a revolution happening here in Courtney. It's called the LET system. LET system stands for Local Exchange Trading System. New members pay an initiation fee of about $15 to cover administration costs. Trading is recorded using a currency called green dollars, which only exists as a blip on the computer.
D'après ce reportage-là, qui date quand même, la particularité du système LET, c'est que c'est une monnaie sociale parallèle et pas nécessairement une monnaie en heures. C'est un fonctionnement très différent de la corderie. Mais les deux systèmes font un peu la promotion d'une autre façon de vivre, basée sur la mobilisation des talents.
Courtney's LET system has over 500 members who have traded almost a quarter of $1 million, where otherwise there would have been no business at all. People here have little cash, but they do have skills.
We think we've got an answer to the central issue. The central issue is the structural problems of money.
Après avoir fouillé sur Internet, j'ai été prendre une marche en forêt pour réfléchir. En fait, quand on lit entre les lignes et qu'on écoute les gens parler de ces systèmes-là, on est toujours près d'un certain rêve qui serait plus beau que le régime économique dans lequel on vit en ce moment. Des différences existent entre les systèmes et les organismes, par contre. Certains font l'apologie de ce qu'on peut appeler du troc, ce qui n'est pas le cas de la corderie. Mais peu importe leur façon de fonctionner, la majorité d'entre eux encouragent et valorisent les échanges et le développement communautaire. Plusieurs de ces systèmes-là existaient bien avant la corderie. Alors pourquoi créer un nouveau concept? Pourquoi les fondateurs de l'organisation n'ont pas tout simplement fondé un sel ou un jeu à la place? Pour l'instant, j'avais juste des morceaux de réponse. J'ai donc décidé d'élargir mes horizons un peu. J'ai mis du gaz, je suis embarqué dans mon auto et j'ai décidé de sortir de la ville.
Bon, ben pour la Xème fois, départ pour Montréal. Mon Dieu, on dirait que le char est fatigué.
J'ai roulé sur l'autoroute 10 pour une Xème fois et, comme la tradition le veut, je suis arrêté à l'Ange Gardien pour un café.
L'Ange Gardien, c'est vraiment le centre de l'univers.
4 et 5. Besoin du reçu?
Non, ça va, merci.
Et voilà.
Merci, salut.
Merci à vous.
Ouais. Reprenez l'autoroute. Ouais, c'est bien Montréal, ça. Le fleuve, les gratte-ciels. À gauche, les studios Mills.
J'avais deux autres rendez-vous à Montréal la même journée. J'ai donc laissé mon auto dans l'est de la ville et je me suis pris une passe de métro.
Que je m'en vais rencontrer Nadia, qui est la directrice générale du réseau Accorderie, puis Luc, qui était longtemps sur le conseil d'administration de l'organisme, puis aussi qui est membre de la corderie de Rosemont puis de Montréal-Nord, je pense. Puis c'est un peu particulier parce que moi puis Nadia, ben c'est ça, on est à la recherche un peu d'une salle pour se rencontrer avec un bon son, puis me proposer de faire ça à la Grande Bibliothèque, un lieu que je connais très bien. Fait qu'on s'est trouvé un petit local là.
Ça faisait un bout de temps que j'avais pas pris le métro, mais ça sonnait pareil comme dans le temps. J'étais débarqué à la station Berry-UQAM, un classique. Il y avait de l'action sur la rue Sainte-Catherine. J'approchais tranquillement de la Grande Bibliothèque, qui est comme un immense immeuble rectangulaire et moderne juché en plein centre-ville.
Dans la Grande Bibliothèque.
Moi et Nadia, on s'était donné rendez-vous dans une petite salle qui servait de locaux de pratique. J'ai commencé à installer mon matériel et à un moment donné, j'ai entendu une mélodie dans mes écouteurs. Ça venait de la pièce d'à côté et ça sonnait comme du piano. Je suis sorti et j'ai vu qu'un jeune garçon de peut-être 10 ans s'est installé là pour pratiquer. J'ai donc été le voir et je lui ai demandé s'il pouvait baisser le son. Il l'a fait un peu, mais pas tant que ça. Et disons aussi que Nadia, la directrice du réseau des accorderies qui venait tout juste d'arriver, voyait plutôt ça d'un bon œil.
Il joue quand même bien. Oui, c'est ça, ça fait une petite ambiance classique. Là.
J'étais bien content de lui parler. Et une heure plus tard, Luc est passé. Je l'avais invité à la recommandation de Nadia parce que, selon elle, c'était un des meilleurs ambassadeurs de la corderie.
Parfait, fait que c'est parti.
Puis tu peux te reprendre aussi si, mettons, on va enregistrer une heure, bon, peut-être garder 6 minutes. Là,
moins de pression.
C'est ça, ouais, ça enlève la pression, c'est mieux comme ça.
Une fois qu'on était bien installés, j'ai tout de suite demandé à Luc de me parler de son parcours.
J'ai connu la corderie en 2006, alors je me suis impliqué. Et puis, assez rapidement, après un an, j'ai été élu sur le conseil d'administration à la présidence. Et puis, j'ai poursuivi mon parcours ensuite à Montréal-Nord, à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et puis maintenant à Rosemont. J'aime bien contribuer à ma société et puis la changer de l'intérieur.
Luc portait bien le message. Et pour lui, la corderie reposait surtout sur une valeur centrale.
C'est la justice sociale. Sur les 5 principes d'une accorderie, il y en a un qui dit « une heure vaut une heure ». Ce qui fait que je trouvais que ça, c'est un élément qui contribuait à bâtir une société plus égalitaire.
Ça ressemblait un peu à ce que j'avais entendu sur les autres systèmes. Mais à mesure que j'écoutais Luc et Nadia, je voyais tranquillement ce que l'accorderie avait de différent.
C'est vraiment de ramener un équilibre. Donc, peu importe c'est quoi ta connaissance, les études derrière, le service que tu donnes, les années d'expérience, si ça te prend 30 minutes le faire, c'est 30 minutes qu'on te paie.
Plus je les écoutais, plus je me rendais compte que Nadia et Luc ne faisaient pas nécessairement l'éloge d'un système. Ce qui les animait, et ce qui anime la corderie aussi, je pense, c'était une volonté de changer les choses.
Ce que je trouve dommage dans notre société, une des choses, c'est qu'il y a des très pauvres puis il y a des très, très riches. Mm-hmm. Et puis, dans une société globalement riche, je trouve ça difficilement acceptable. Qu'il y en a qui gagnent 15 $ de l'heure, d'autres 150 $ de l'heure, puis d'autres encore des milliers de dollars.
La mission et la couleur de la corderie se précisaient, mais pas encore assez à mon goût. Après quelques minutes, j'ai donc été au cœur du sujet.
Qu'est-ce qui différencie les accorderies de d'autres organismes communautaires, de d'autres initiatives d'échange entre les gens?
Luc n'a pas hésité très longtemps.
La particularité d'une accorderie, c'est qu'elle lutte, il y a une mission sociale, elle lutte contre la pauvreté puis l'exclusion. Mm-hmm. Tandis que tous les autres systèmes d'échange local, l'abréviation des SEL, c'est qu'ils n'ont pas cette prérogative-là.
C'est vrai que dans tout ce que j'avais entendu sur les autres systèmes, aucun mettait de l'avant aussi clairement cette volonté-là de changer les choses. Je constatais également que pour beaucoup d'accordeurs, dont Nadia, c'était pas le système d'échange en soi qui allait transformer la société.
Le système d'échange de services, c'est un moyen.
Pour elle et pour beaucoup d'autres, c'était un outil de lutte à la pauvreté. Une façon d'ouvrir des portes aux personnes moins fortunées. C'était le cas d'une femme du coin de Lac Mégantic, par exemple.
Je pense entre autres à une accordeur de granit. Elle disait qu'elle a vécu une dépression. Puis grâce à l'accorderie, les heures qu'elle accumulait, elle les prenait en massage. Puis ça lui faisait du bien, mais elle n'aurait pas eu les moyens nécessairement financiers, en argent.
Ça permettait à ces femmes-là et à ces hommes-là d'avoir accès à des services qui ne pouvaient peut-être pas se payer. Juste ça, c'était majeur. Sauf que c'était loin d'être le seul objectif ni la seule conséquence de l'accorderie.
Ils reçoivent pas juste des services, ils peuvent en donner, ils se sentent utiles, se sentent, exemple, s'ils sont retraités ou s'ils ont des problématiques particulières qui font qu'ils travaillent pas, etc. Ben là, ils retrouvent un sens.
Luc était du même avis.
Ça te valorise quand tu es demandé. Juste d'être demandé, c'est déjà valorisant. Quand tu remplis le service, ben, tu dis « cher à quelque chose ». Et puis si la cerise sur le Sunday, tu te fais dire que tu fais un beau travail, tu sais, ça valorise beaucoup. Puis on ne sait jamais comment ça peut déboucher. Peut-être la personne, après 5 ans, après 10 ans, va dire « ben coudonc, j'ai tellement une expertise là-dedans, là, j'ai envie de partir mon entreprise d'entretien paysager, de gazon. » Fait qu'on ne sait jamais. Puis ça sourit au gouvernement.
La corderie a donc aussi un objectif d'intégration. Mais le but, c'est pas juste d'inciter les gens à offrir des services. C'est plus que ça.
Il y a tout un volet social à la corderie, d'activités de toutes sortes, là, en fonction d'événements ou pas, des pique-niques, des cafés-rencontres. Comme le système d'échange, c'est vraiment une façon de rencontrer puis de tisser du lien social, finalement.
le lien social. De plus en plus, je pense que c'était ça le point d'ancrage de la corderie.
Les rencontres sociales, ça brise l'isolation. Les gens, moi je pense le plus gros dans le phénomène de la pauvreté, c'est que les gens sont isolés les uns des autres.
L'exclusion.
L'exclusion, ça va main dans la main malheureusement. C'est que ces gens-là peuvent rencontrer d'autres gens puis qui sont possiblement dans la même situation financière, la même réalité, ce qui fait qu'ils ont moins de gêne à s'ouvrir, à se présenter. Puis de partager des repas ou de créer des repas ensemble, c'est que ça bâtit une relation de confiance. C'est plus un étranger. Moi, je pense que c'est l'aspect social qui transforme plus que l'aspect économique. Je pense qu'il y a une soif. Il y a une soif pour les gens d'avoir plus de communautaire dans leur vie, plus de solidarité.
Luc est vraiment un bon ambassadeur. Et ça me fait voir que le centre de la corderie, c'est pas le système d'échange. C'est pas non plus une idéologie politico-économique qui, par magie, pourrait changer la société. Non. Le cœur de la corderie, du moins c'est mon hypothèse pour l'instant, c'est la solidarité sociale. Et c'est aussi une opportunité pour des gens qui sont isolés, qui sont sur le bord de la route, de revenir dans le village et de trouver leur place. Après la rencontre, j'étais un peu sur un nuage. Au point que quand Nadia et Luc ont quitté, je voyais les valeurs communautaires de la corderie autour de moi. Je pensais au petit gars qui jouait du piano à côté de nous autres, par exemple. La grande bibliothèque lui permettait d'avoir accès à un piano gratuit pour s'exprimer. Je connais pas son histoire, mais peut-être que cette simple chose-là, cette opportunité-là, fait une grande différence dans sa vie. Pendant que je descendais l'ascenseur vitré pour revenir au rez-de-chaussée de la bibliothèque, je voyais plusieurs personnes, d'après moi moins fortunées, profiter de plusieurs ressources. Étrangement, la grande bibliothèque était comme devenue une analogie vivante de ce que je venais de discuter avec Luc et Nadia. J'ai donc quitté Montréal avec l'esprit léger et un peu de poésie dans le cœur. Et pendant que je marchais dans le froid stationnement jusqu'à mon auto, je repensais aux derniers mots de Luc, que les gens ont besoin de solidarité. C'est drôle, mais c'est comme si en voulant mieux cerner c'est quoi la corderie, je m'étais rendu compte que je portais déjà la réponse. Le centre de la corderie, comme le mot l'évoque un peu, c'est l'inclusion. L'insertion de l'individu dans une genre d'harmonie collective où chacun contribue. De mon côté, je suis entré en contact avec ça il y a 20 ans avec un groupe d'écriture. Mais pour d'autres, comme je le disais, cette porte-là, ça a été la corderie. En revenant à Sherbrooke, je continuais de penser à ça. Et maintenant que les valeurs de base de la corderie m'étaient plus claires, je me demandais comment je pouvais entrer en contact avec elle et comment, pour revenir à la recherche de Paul, elle pouvait faire du bien aux aînés. Ironiquement, la solution et une incarnation tangible et concrète des principes de la corderie étaient tout juste à moins d'un kilomètre de chez moi, entre les murs du café Baobab, un lieu fondé par la corderie de Sherbrooke quelques années après que je sois parti. D'ailleurs, Catherine m'avait invité à une activité sociale qui se passait là et qui était bien populaire chez les aînés. C'est là qu'on s'en va prochainement.
Salut Jean-François, j'espère que tu vas bien. Tu me demandais s'il y avait des activités qui regroupaient particulièrement beaucoup d'aînés au Baobab. Et justement, on a des ateliers d'art et d'artisanat chaque mardi après-midi où il y a plusieurs aînés qui participent. Donc, en fait, si ça te tente de venir mardi prochain, ce serait le fun. À bientôt!